Alors, j'ai fait un premier travail sur ce que les psychologues appellent le comportement. Cette notion a été répandue surtout par les psychologues américains et anglo-saxons sous le nom de behavior, et elle servait tout d'abord à désigner un nouvel objet que ces auteurs se proposaient de donner à la psychologie. La psychologie devait être consacrée à l'homme, mais à l'homme vu du dehors. Je regarde quelqu'un d'autre en train d'agir, je puis étudier les relations qui existent entre la situation dans laquelle se trouve la personne observée et les réponses qu'elle donne à cette situation, et le rapport situation-réponse, voilà le comportement. Chez les auteurs qui ont les premiers introduit cette notion, l'intention était au fond de libérer tout à fait la psychologie de toute espèce de vie intérieure. Il s'agissait de prendre l'homme tel qu'il m'apparaît quand, non pas quand je me considère moi-même réflexivement, mais quand je regarde un autre homme en train de penser, de parler et d'agir. Et le comportement ainsi compris était considéré donc comme une réalité extérieure, presque matérielle. Chez Watson, par exemple, l'américain Watson, le comportement était considéré à beaucoup d'égards comme une chaîne de causes et d'effets qui allait depuis le monde extérieur agissant sur mon corps jusqu'à mon cerveau et de là, par l'intermédiaire des nerfs moteurs, jusqu'à mes organes moteurs et mes réponses motrices à la situation. Et alors, il s'est produit un étrange développement de cette notion de comportement. Au fond, on s'est aperçu très vite qu'elle était double, cette notion. D'un côté, c'était une notion quasi matérialiste, puisqu'elle envisageait, comme je vous le disais à l'instant, des relations de cause à effet entre les événements extérieurs et la réponse que donne le vivant à ces événements. Mais aussi, on s'est aperçu, à mesure qu'on décrivait les comportements et qu'on les classait, on s'est aperçu que ces comportements avaient des structures différentes. Et que même quand on partait, comme le faisait Watson, avec le parti pris de ne pas considérer l'intérieur, on voyait reparaître l'intérieur dans la structure, la forme des comportements. Alors, je me suis proposé dans un travail un peu technique, sur lequel évidemment je ne peux donner que des indications brèves, je me suis proposé de repérer exactement ce que c'était que cette structure du comportement et comment elle nous amenait à définir les relations du corps et de l'esprit, du matériel et du sens. Voilà ce que j'ai fait dans ce premier travail. Et le second travail sur la perception que j'ai fait, au fond, c'était le même travail, mais cette fois pris plus amplement. Alors que dans le premier, je m'étais attaché à cette notion de comportement et j'avais même essayé d'en suivre le développement, ou certains développements. Dans le second, au contraire, je ne me suis pas assujetti à considérer l'homme du dehors, comme on le fait en régime de psychologie du comportement, mais je me suis tourné vers moi-même, mais avec le parti pris de saisir en moi ce qui, à certains égards, est le moins spirituel, le moins pensé pur, à savoir la perception. La perception, qui est, comme tout le monde sait, notre appréhension des objets existants autour de nous et des relations entre ces objets, la perception me paraissait être un thème d'étude important parce que c'est en elle que s'accomplit la jonction du corps et de l'esprit. Alors là, je rencontrais toute la tradition cartésienne aussi, qui analyse notre perception du monde extérieur en voyant en elle une opération de l'esprit. Vous vous rappelez le fameux texte dans lequel Descartes analyse la perception d'un morceau de cire. Il se termine à peu près par les mots que voici. Je m'aperçois que je saisis par une inspection de l'esprit ce que je croyais voir de mes yeux. On ne voit pas avec ses yeux, pour Descartes. Ce n'est pas l'œil qui voit, c'est l'âme, disait-il encore. Eh bien, c'est cette analyse cartésienne, relayée dans l'histoire de la philosophie par toute espèce d'autres travaux et d'autres analyses, que j'ai pris pour thème de discussion et que je me suis proposé de mettre en discussion. Je me suis beaucoup aidé dans ce travail de toute une série de recherches connues en Allemagne sous le nom de théorie de la forme ou Gestalttheorie, recherches qui ont pour trait commun l'intention de décrire ce que ces auteurs appellent la forme dans le monde extérieur. Est-ce qu'ils entendent par la forme, ce n'est pas seulement le contour, c'est pas la forme extérieure, c'est ce qu'on pourrait appeler plus clairement la configuration. Ces auteurs qui ont commencé d'écrire en Allemagne après 1918 et dont l'influence a été considérable sur toute la littérature psychologique et sociologique depuis, ces auteurs ont essayé de mettre en évidence sous le nom de forme ou Gestalt des ensembles par conséquent organisés, par exemple une mélodie. Une mélodie est un ensemble organisé, elle n'est pas une somme d'éléments, puisque vous pouvez changer tous les éléments, la forme demeurant constante, ce qui arrive quand vous transposez une mélodie. Et cependant, quoique ce soit un ensemble, le sens de cet ensemble n'est pas quelque chose qui parle à notre intelligence seulement, c'est quelque chose de quasi-sensible. Et alors ce qui m'a intéressé dans la Gestalttheorie, ce qui m'intéresse encore, c'est cette description d'un ordre de sens et de signification qui est véritablement du niveau du vécu et qui n'est pas de l'ordre de l'esprit au sens cartésien. Je croyais trouver là quelque chose qui assurait la jonction, le lien, entre le sensible proprement dit et l'intelligence ou le jugement. Et mon travail s'est efforcé d'expliciter complètement, de décrire complètement cet aspect concret des relations telles que nous les percevons, par opposition aux relations telles que nous les concevons. Ceci impliquait d'ailleurs, et c'est une bonne partie de mon travail, une analyse du rôle que joue notre corps dans la perception du monde extérieur. Là encore, je m'aidais de beaucoup d'autres travaux, de travaux de psychologie, de psychopathologie. Et il me semblait que l'on pouvait montrer, très en gros, que mon corps n'est pas seulement, comme tout le monde le sait, le siège d'un certain nombre de conditions qui gouvernent l'apparition de ma perception du rouge ou du vert ou du bleu. Mon corps n'est pas seulement cause dans ce sens-là. Et même si je décris les choses comme elles se passent en moi, de mon point de vue, il ne faut pas dire du tout que mon corps est cause de mes perceptions, mais il est plutôt intermédiaire entre moi et les choses extérieures. Et percevoir, c'est être en relation avec des choses et des aspects des choses et des relations entre les choses par l'intermédiaire d'un corps. À certains égards, le corps, c'est pas, ici je rencontrais la thèse cartésienne, ce n'est pas l'œil qui voit, c'est l'âme, et j'essayais de montrer que si, c'est l'œil qui voit, mais non pas l'œil du physiologiste, non pas cet œil que nous pouvons tenir sous notre microscope ou sous notre scalpel, cet œil tout matériel, mais une certaine fonction de sentir et de percevoir qui n'est pas de l'ordre de l'esprit et qui n'est pas de l'ordre du corps matériel, du corps objectif. J'essayais de montrer qu'il y a un corps qui n'est pas le corps objectif tel que la science biologique peut le déterminer par ses mesures extérieures, et qu'il y a un corps que j'appelais, après d'autres d'ailleurs, corps phénoménal, le corps tel que nous l'éprouvons, tel que nous le vivons, et que ce corps-là n'est pas simplement pour notre esprit un de ses objets, un des objets auxquels il s'intéresse et qu'il considère de loin, qu'à certains égards, notre esprit est situé en lui, en relation intime avec lui, et que ce corps est le médiateur de nos relations avec le monde extérieur. Voilà le contour général de ces premiers essais philosophiques que j'ai publiés pendant et juste après la guerre, et qui alors m'ont conduit depuis à d'autres recherches philosophiques orientées de la même façon, mais s'adressant cette fois à ce qui est au-dessus du niveau perceptif, au-dessus du niveau de la perception simple. Je veux dire que une fois qu'on a montré, comme j'avais essayé de le faire, que percevoir, ça n'est pas penser, que c'est autre chose, une fois qu'on a montré que le sujet pensant de Descartes est lié à un corps et que ce lien avec le corps n'est pas pour lui un hasard, une circonstance extérieure, mais que cela est son moyen d'insertion dans le monde, Reste alors à comprendre comment il se peut qu'un tel sujet incarné, lié à un corps, soit en même temps capable d'opérations qui sont au-dessus des moyens du corps. Car nous pouvons aussi penser, nous pouvons percevoir, mais nous pouvons aussi penser. Et il n'y a pas pour nous qu'un monde perçu, il y a un monde, le monde scientifique, il y a le monde de la philosophie, il y a le monde du savoir d'une manière générale. Et alors, je me suis depuis attaché à l'analyse de ce second plan de réalité, de ce second ordre de réalité. En particulier, ceci m'amène à étudier de près le langage, car je vois dans le langage, non pas du tout une enveloppe extérieure de la pensée ou une sorte de moyen mnémotechnique pour elle, comme si la pensée n'était pas véritablement intéressée dans la fonction de parole. Je vois bien plus dans la parole, non pas un simple instrument, mais je vois bien plus en elle, à certains égards, n'est-ce pas, la parole peut être considérée comme l'actualisation de la pensée. Il n'y a pas de pensée qui arrive à être actuelle, effective, n'est-ce pas, à saisir vraiment quelque chose, sans s'aider de la parole, soit qu'il s'agisse de parole à voix haute, soit qu'il s'agisse de parole intérieure. Et alors, ce que j'essaye de faire maintenant au niveau du langage, c'est une analyse du genre de celle que j'avais tentée à propos de la perception et du monde sensible, faire apparaître le langage comme une sorte de corps de la pensée, dans le sens actif du mot « corps », et non pas simplement comme une enveloppe extérieure, disais-je tout à l'heure, ou un vêtement que la pensée se donne et dont elle pourrait se passer. Alors, faire saisir en quoi consiste, à certains égards, quand on passe de l'ordre du monde perçu à l'ordre de la pensée, qui est aussi l'ordre de la culture, à certains égards, tous les rapports se renversent. Nous percevons selon ce qui nous est imposé par les conditions données, et au contraire, il semble que nous ayons à l'étage du langage et de la parole, et que nous ayons affaire à un homme actif et non plus simplement à un homme passif. Et cependant, cette activité est constamment soutenue par il y a une vie propre du langage, qui n'est pas exactement la vie de la pensée. Alors c'est l'examen de ces relations étroites entre le langage et la pensée qui m'occupe maintenant depuis de longues années. Ceci m'amène à étudier, outre tout ce que les linguistes ont pu nous dire sur le langage, cela m'amène aussi à étudier des modes d'expression qui ne sont pas encore langage, ou qui ne sont pas du tout langage même, mais qui ont chance peut-être de nous rendre perceptibles certains aspects du langage que autrement nous ne saisirions pas. Je pense par exemple à la peinture ou à la musique, dont on peut dire qu'elles ont une signification. Je ne fais pas du tout ici allusion au sujet, le sujet à propos duquel le musicien écrit ou à propos duquel le peintre peint. Je ne pense pas du tout au sujet, mais je pense à ce qui organise de l'intérieur un tableau ou une musique, et qui n'est assurément pas une illusion, puisque c'est ça qui fait que tous les éléments de la musique ou tous les éléments du tableau ont une relation et contribuent tous ensemble à faire une seule œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sens? De quel ordre de description est-il susceptible? Quelles sont ses relations avec le sens tel que je crois l'avoir dévoilé au niveau des choses perçues? Il y a là une sorte de famille de significations. Ce sont, dans tous les cas, nous avons affaire à des significations qui ne sont pas les significations logiques. Et quel est le passage possible de cette signification pré-logique ou métalogique à la signification proprement logique? Quels sont d'ailleurs les divers usages du langage? À côté de son usage prosaïque, il y a aussi son usage plus que signifiant, qui est celui de la poésie ou de la littérature. Voilà l'ordre de problème dans lequel je suis entré maintenant.
Texte de Francis Ponge.